Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec des journalistes du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Gaîté.
Les séries audio de Podcasting, Girondins de Bordeaux, un monument en péril.
Cette semaine, Podcasting fête Noël et vous propose une série de 5 épisodes entièrement dédiés aux Girondins de Bordeaux. Ils accompagnent l'interview exclusive que nous a accordée Pascal Rigaud, possible repreneur du club. Une interview que vous pouvez retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans les 3 premiers volets, nous avons évoqué l'histoire des Girondins entre 1881 et 2010. Aujourd'hui, nous allons parler de la période suivante qui amène jusqu'à l'actualité, bien sûr. Nous sommes toujours en compagnie d'un journaliste qui a coécrit 3 livres consacrés aux Marinés Blancs, parmi lesquels l'Escure et les Girondins, aux éditions Sud-Ouest. Bonjour Laurent Brun.
Bonjour Jean, bonjour à tous.
Ces livres, vous les avez coécrits avec un autre journaliste, Julien B. Laurent, en 2009, les Girondins sont champions de France. Ils font ensuite une belle campagne européenne. Nous en avons parlé avec Laurent Perpignat-Iban. Les saisons suivantes sont plus compliquées, même si les Marinés Blancs décrochent une Coupe de France en 2012-2013.
En effet, on sent que alors le soufflet retombe un peu, si je puis dire. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été prolongés au niveau du club bordelais, hein, en termes de contrat, de revalorisation salariale, juste après le titre, ce qui est une politique de la part du club. Sauf que ça n'a pas généré les résultats forcément escomptés. Effectivement, le club, on va pas dire végète, mais perd un peu de sa superbe, hein, sachant que c'est quand même difficile de se maintenir à très très haut niveau, hein, surtout aussi avec l'avènement du Paris Saint-Germain et l'époque qatari, hein, entre guillemets, où Paris Saint-Germain bâtit un gros projet et une grosse équipe pour devenir champion de France. L'Olympique Lyonnais avait été aussi l'équipe dominante. Les Girondins avaient réussi à battre Lyon sur la première marche du podium. Et Bordeaux, effectivement, gagne une Coupe de France sous l'ère Francis Gillot en 2013. Mais on sent quand même que le beau jeu n'est plus forcément au rendez-vous. Il y a encore des joueurs de qualité, mais on voit que la courbe est descendante et que ça devient de plus en plus compliqué, malgré quand même des jeunes qui sortent de la formation. Bordeaux végète et Bordeaux s'enfonce petit à petit dans les méandres du championnat.
Il y a un gros changement dans la vie des Girondins et de leurs supporters, c'est ce déménagement de stade en 2015. Bordeaux quitte l'historique Lescure, devenu Chaban, et s'installe au stade de l'Atlantique. Parlez-nous un peu de ces deux enceintes et de ce qu'en pensent les amoureux du club.
Alors c'était une transition qui était probablement logique et inéluctable, même s'il y a eu des clivages politiques à ce sujet, mais les Girondins dans leur stade, le parc Lescure, stade rebaptisé stade Chaban-Delmas au début des années 2000, ont un problème, c'est qu'ils ont encore le droit d'y jouer en Coupe d'Europe lorsqu'ils sont qualifiés, mais le cahier des charges étant tellement strict qu'on sait très bien que ce stade devient obsolète par rapport aux normes UEFA, c'est-à-dire l'organisme qui gère les compétitions internationales en Europe. Donc est validé ce projet de construire un stade, un nouveau stade dans le quartier du Lac, qui est un projet qui ne date pas des années 2010, mais qui date des années 80, puisque Claude Bèze, ancien président emblématique des Girondins avec le maire de l'époque Jacques Chaban-Delmas, avait envisagé de construire un stade déjà dans le quartier du Lac. Et là, la classe politique dans son ensemble était unanime pour cela. Finalement, ça ne s'est pas fait. Claude Bèze a obtenu de la ville de refaire le stade Chaban-Delmas qui a été réinauguré dans une configuration différente, capable d'accueillir entre 40 et 50 000 personnes au mois de février 87. Il est inauguré, en tout cas février-mars 87. Et les Girondins se retrouvent quand même avec un nouveau stade dans le quartier du Lac. Et la transition se fait logiquement, on va dire. Ensuite, par rapport au cœur des supporters, c'est compliqué parce que les gens qui ont connu le parc Lescure, il y a eu un premier parc Lescure en 1924 qui a été démoli et un autre qui a été inauguré au même emplacement en 1938. On n'a pas assez de recul encore pour parler du Matmut Atlantique en termes de comment dire, de filiation et de rapport de côté cœur, je dirais. Les gens aujourd'hui sont beaucoup plus attachés, je pense encore, au parc Lescure qu'au Matmut Atlantique, sachant qu'il n'y a pas eu beaucoup d'événements marquants de la part des Girondins en termes de résultats sportifs dans cette nouvelle enceinte.
<musique> autre changement majeur, en 2018, M6 quitte les Girondins après 20 ans. Pour quelle raison la chaîne choisit-elle de se désengager ?
La chaîne est arrivée au lendemain du titre de 1998-99. Son credo au départ, c'était M6, la chaîne 0% football. Finalement, elle s'est investie, elle s'est impliquée. Elle a gagné des titres. C'est une époque faste pour les Girondins de Bordeaux, que ce soit championnat de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Et ça a correspondu à ce moment-là à une stratégie différente où M6 a souhaité se désengager. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais ça a été un virage amorcé. M6 en parlait depuis quelques temps. M6 était critiqué quand même, il ne faut pas l'oublier, aussi par les supporters girondins, malgré le palmarès, le pédigré, notamment sous l'ère Jean-Louis Triot qui était président du club. Et finalement, M6 a dit on ne vendra pas tant qu'on n'aura pas un repreneur sérieux. Finalement, ça a été cette entreprise américaine qui est arrivée. M6 a jugé, et puis les autorités politiques aussi, que c'était le bon moment, que c'était le bon interlocuteur pour la transaction. Il se trouve que ça ne s'est pas forcément bien passé, la vente s'est bien passée, mais le club étant passé sous pavillon américain a eu des difficultés, et on a vu que les dirigeants nouveaux, les actionnaires en tout cas nouveaux arrivants, n'ont pas, je pense, pris la mesure de ce qu'était un club de foot en France, en Europe, et ils ont essayé de gérer comme un club américain, que ce soit de basket, de hockey sur glace ou de foot américain, et on a bien vu que ça n'a pas fonctionné, il faut le dire.
On va revenir sur ces investisseurs américains, mais un mot sur un personnage que vous avez cité, Jean-Louis Triot. C'est un président qui part à ce moment-là, justement, et qui est très différent de Claude Béze, mais qui est aussi très populaire parmi les supporters.
Oui, il est moins impopulaire que Claude Béze dans une frange de supporters, pour une frange de supporters, mais il est très populaire. C'est un homme sans filtre qui est capable de vous dire tout de go que, excusez-moi, mais que vous l'emmerdez, puisque c'était un mot qu'il reprenait souvent, même vis-à-vis de nous, les journalistes, on y a eu droit aussi. Mais c'était quelqu'un de sympathique, d'investi, de très investi, comme le président Béze, dans un registre évidemment différent, qui a été titré lui aussi comme le président Béze, et qui a fait beaucoup pour le club, alors lui et son équipe dirigeante, bien sûr, ce serait réducteur de ne parler que du président, mais qui était aussi capable d'aller voir les supporters, de descendre dans la fosse avec eux ou dans le virage à l'Escure ou même au Matmut Atlantique pour aller dire excusez-moi, je le redis, mais vous m'emmerdez, ça va pas, il faut faire comme ça, ou alors ça c'est très bien, continuez à mettre l'ambiance, continuez à nous soutenir. Un président populaire du coin, du cru, qui possède aussi des châteaux, qui est un vigneron, un homme de la terre, et qui s'est exprimé aussi très librement avec tout le monde, et qui était apprécié pour son franc-parler, pour sa franchise. Voilà, on a pu lui reprocher certaines choses sur des transferts ou autres, peut-être, on aurait voulu des noms un peu plus ronflants. Bon, après, on n'est jamais satisfait, mais ça a été, et on le voit encore aujourd'hui, très difficile de lui succéder au niveau de la tête du club.
Et je pense que beaucoup gardent en mémoire son dernier match, passé au milieu des ultramarines, avec un fumigène à la main, notamment en fin de rencontre, lorsque l'hommage lui était rendu.
Ça résume bien ce qu'était le président, ce fumigène à la main.
Arrivent alors deux investisseurs, GACP et King Street. Qui sont-ils ? Donc vous les avez évoqués tout à l'heure. Qui sont-ils et que viennent-ils faire là ?
Ils viennent à la base pour faire de l'argent, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'était aussi la volonté première du club, à savoir du trading, comme ça se fait un peu partout en Europe. Sauf que le marché français, c'est pas tout à fait la même chose que certains autres marchés. On n'est pas en Angleterre, on n'est pas en Allemagne, on n'a pas non plus 60 000 personnes dans les stades. Alors, hors pandémie, on est d'accord, lié à la crise sanitaire du Covid-19, puisqu'aujourd'hui on est dans des jauges quasiment zéro, des huis clos, mais je pense qu'ils ont mal ciblé ce qu'était le football français, et faire du trading, ça veut dire recruter ou former de jeunes joueurs et les vendre, les recruter à bas prix, évidemment, ou les former à moindre coût et les vendre très cher. Il n'y en a pas beaucoup qui savent faire ça. En Europe, on a connu le FC Porto qui était capable de faire ça, l'Udinese en Italie, quelques gros clubs aussi au niveau européen. L'AS Monaco a réussi un peu pendant 2-3 ans en France, mais a connu une dégringolade et s'est retrouvé en deuxième division. Le LOSC à Lille, il parvient encore un peu, mais a mis un peu d'eau dans son vin, si je puis dire. C'est très très difficile et c'est très risqué de faire ça. Et je pense sincèrement, et ça n'engage que moi, que les dirigeants se sont fourvoyés dans ce combat-là et n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient, parce que je pense que ce n'est quasiment pas possible de le faire en France, en tout cas à Bordeaux.
Trick.
Alors en 2019, King Street a racheté les parts de GACP et donc aujourd'hui le seul propriétaire des Girondins. Quels moyens met-il à la disposition du club et comment son action est-elle perçue par les supporters ?
L'action est très mal perçue par les supporters, hein, que ce soit le groupe phare meneur des Ultramarines ou d'autres, hein, beaucoup plus anonymes, ça passe très très mal parce que les supporters pensent que, ben, que l'âme du club, on a parlé de l'esprit girondin créé par Claude Bess par exemple, que l'âme du club a été bafouée, que on a touché au symbole du club, y compris au blason. Alors d'un point de vue personnel, qu'on refasse un blason, ça ne me dérange pas, ça se fait dans tous les clubs, dans toutes les grandes marques du monde, hein, des marques de prêt-à-porter, des marques automobiles. Mais le club, c'est pas... vous le savez, c'est une entité. Ici, c'est le club phare de la région, il n'y en a pas beaucoup. Et les Girondins de Bordeaux, c'est quand même quelque chose d'ancré depuis très longtemps, depuis 1881, date de la fondation du club au niveau omnisport. Les Girondins, c'était aussi un groupe de révolutionnaires qui a été représenté dans l'histoire de France pendant la Révolution française. Girondins de Bordeaux, attention, il faut pas se tromper dans la politique, il faut pas toucher au symbole. Et Bordeaux-Girondins, sur le nouveau blason du club, ça passe pas. Ça passe pas. Cette politique aussi d'acheter des joueurs à bas coût, de les revendre à gros prix, ça passe pas. La direction bordelaise a sûrement commis des erreurs, a été mal conseillée. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour relater des faits. A été probablement mal conseillée. Et je pense que c'est un dialogue qui est devenu inéluctable. Nous parlions du président Trio qui était capable de dialoguer avec les supporters. Les nouvelles directions successives des Girondins de Bordeaux ont eu beaucoup de mal, et pour ne pas dire ont encore du mal, parce que le dialogue, je pense, est rompu. J'espère pas définitivement, mais il est rompu et il y a une vraie fracture qui s'est opérée. Alors on sent que depuis quelques temps, quelques mois, ça va un peu mieux au niveau des résultats sportifs. Le retour de Jean-Louis Gasset au club en tant qu'entraîneur principal, il avait été adjoint de Laurent Blanc, a porté ses fruits quand même, a apaisé un peu la situation. Le retour d'Alain Roche, passé deux fois en tant que joueur par le club aussi. L'arrivée d'un joueur de génie de classe internationale comme Atamen Arfa aussi. Mais que va nous réserver demain ?
Et un homme au cœur de tout cela cristallise, hein, les rancœurs des supporters.
Oui, je pense qu'il s'agit de Frédéric Longuepé qui est peut-être en train de prendre la mesure aujourd'hui de ce qui se passe dans le club, qui a peut-être pas été bien conseillé au départ, je ne sais pas, je ne suis encore pas là pour juger, mais en tout cas, effectivement, il cristallise, à juste titre ou non, les rancœurs, les invectives. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il ne faut pas aller trop loin, c'est que du foot. Et là, je crains que ce ne soit pas que du football, pour les raisons que l'on vient d'évoquer. Il faut de toute façon savoir raison garder et convenance garder, mais respect garder. Mais je pense que le dialogue, pour l'instant, est vraiment au point mort, même si je sais que Frédéric Longuepé a dit dernièrement qu'il était prêt à dialoguer de nouveau. Malheureusement, il y a cette fracture et j'ai l'impression que du « je t'aime, moi non plus », on est passé à une sorte de, pas de guerre, parce que le mot est fort et cruel, mais dans l'esprit de certains supporters, j'ai bien peur qu'on en soit là. Donc ça va mieux, on l'a dit, Frédéric Longuepé aujourd'hui s'est entouré de gens aussi qui font que bah, ça va mieux au niveau du club, mais jusqu'à quand, hein, on souhaite que le club se pérennise et retrouve ses lustres d'antan. Pour l'instant, c'est encore un peu chaotique, il faut le dire.
Laurent, on entend parler de rumeurs de rachat ces derniers temps. La dernière et la plus insistante étant celle liée à Pascal Rigaud. Que pouvez-vous nous en dire ? C'est sérieux selon vous ?
Alors écoutez, j'ai découvert ça il y a 15 jours dans la presse, comme bon nombre de gens. Oui, je pense que c'est sérieux. Il y a eu d'autres dossiers plus ou moins officiellement déposés. On pense à Bruno Fievé aussi, qui est proche aussi de l'ancien président des Girondins, Stéphane Martin, qui a aussi été président avant Frédéric Longuepé. Je ne connais pas le dossier. J'ai lu. De toute façon, je pense que si le club est vendeur, ben, il faut étudier toutes les propositions qui arrivent sur le bureau. Il y en aura sûrement des saugrenues, ça arrive toujours. Il y en aura sûrement des intéressantes, des très très intéressantes, des très fiables. Voilà, il faut analyser tout ceci, mais je pense remettre l'église au centre du village et refaire des Girondins un club populaire, ce qui est de moins en moins, il faut le reconnaître aussi, et de remettre ce club à flot financièrement. Pour l'instant, il passe ses examens devant la Commission nationale de contrôle de gestion, c'est bien, mais parce que l'actionnaire a aussi remis la main à la poche, comme on dit. Donc il faut voir et effectivement étudier attentivement toutes les propositions de rachat ou d'accompagnement.
Laurent, ce sera ma dernière question. Que pensent les supporters d'un possible rachat ?
Alors écoutez, on ne peut se fier aujourd'hui qu'aux réseaux sociaux, puisqu'avec le reconfinement que nous avons connu, ça a été très compliqué d'échanger comme on le faisait avant au stade ou dans la rue ou dans certaines réunions. Voilà, je pense que les gens aujourd'hui attendent un changement de direction. Je pense que la majorité des analyses que je peux en tirer, des constats, c'est que le groupe dur, notamment des supporters des Girondins de Bordeaux, souhaite, je pense, un départ du président actuel. Et que les nouveaux repreneurs soient des garants de l'identité bordelaise, de l'entité bordelaise, de ce que représentent les Girondins de Bordeaux dans son histoire et dans son implantation géographique et culturelle, et repartir sur des bases simples, humbles, mais en remettant le club au niveau où il doit être, d'un point de vue image d'abord, et d'un point de vue sportif ensuite, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de temps, je pense, pour que cela se mette en place, parce qu'il y a toujours les aléas sportifs, et il ne faudrait pas que le club dégringole au classement et se retrouve une nouvelle fois peut-être en deuxième division. On n'en est pas là, mais je pense que les supporters ont envie d'aimer de nouveau leur club, de se retrouver dans ce club en tant qu'identité et en tant que filiation, parce que c'est important.
Merci beaucoup, Laurent Brun, d'avoir été avec nous tout au long de ces épisodes. Je rappelle le titre de l'un de vos livres, coécrit avec Julien Bell, Escure et les Girondins, aux éditions Sud-Ouest. Je rappelle également que l'interview de Pascal Rigaud, possible repreneur des Girondins que l'on vient d'évoquer, est à retrouver sur le site de Podcastine. Demain, nous conclurons notre série avec un volet entièrement dédié aux supporters du club et à leur histoire. C'est la fin de cet épisode de Podcastine. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Leuil et Marion Ruot. Programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcastine, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcastine, c'est l'actu dans la poche. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.